fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Bonsoir Kinshasa, bonsoir Lomé, bonsoir à toute l'Afrique, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes bien évidemment dans Fenêtre sur l'Afrique et bien sûr la deuxième partie. Vous qui venez de prendre le train à marche, sachez que vous êtes dans cette deuxième partie de cette émission panafricaine. Nous débattons du thème qu'apporte concrètement la francophonie à l'Afrique. Nous recevons dans quelques instants à cet effet, donc dans cette deuxième partie de cette émission, deux nouveaux invités qui ont déjà commencé à débattre avec nous. Il s'agit du Camerounais Paul Wetting, journaliste et essayiste, et Dr Yves Ekwe Amaizo, consultant international. Eh bien, après ce débat, nous accueillerons également en ligne, en direct depuis Lomé, Maître Dodi Apevon, président du comité d'action pour le renouveau. Et car Maître Apevon nous dira les raisons du refus de son parti, le CAR, de participer à la composition de la commission électorale nationale indépendante, CENI, en vue des préparatifs des élections législatives au Togo. Eh bien, ce pays, le Togo, traverse depuis des années une crise politique et cela s'est intensifié il y a environ 6 mois. Sylvain Amos, Romain Koudjodi, Fabi Kouassi, Josué Maoli, Esteban Gagnon et Lucien Hunkali constituent l'équipe de production et bien sûr sous la supervision de Michel Pouléo. Merci également à notre radio partenaire, Légende FM et au Togo, et Lavra, la voix de la résistance africaine installée en Allemagne, qui vont rediffuser également cette émission demain dimanche. Et bien, avant d'aborder les sujets sur la crise politique au Togo, nous allons quand même continuer ce débat et sur la francophonie avec mes deux invités que j'ai toujours gardés en ligne depuis Paris et Vienne, Paul Wetting et Yves Ekwe Amaizo. Eh bien, je reviens au studio avec mes invités, Paul Wetting et le Camerounais et le Togolais, Dr Yves Ekwe Amaizo. Maintenant, nous allons laisser quand même Paul Wetting réagir sur cette question sur l'immigration et la francophonie. Alors, Paul Wetting, selon vous, est-ce que la francophonie favorise ou faciliterait-elle l'immigration des Africains francophones? Bref, la francophonie et l'immigration choisie, est-ce que cela continue, Paul Wetting?
La réponse comme ça, instantanément, c'est non, évidemment. Et ce que Yves a évoqué tout à l'heure, la prétendue immigration choisie, ça porte un nom beaucoup plus historique et plus parlant, c'est le pillage humain. C'est un peu ce qui est dans le livre évoqué tout à l'heure, dans ce livre-là, que je ramasse depuis la traite négrière arabo-musulmane jusqu'au néocolonialisme actuel. C'est un peu cette période-là, c'est devenant que j'ai... Malheureusement, ça fait partie du pillage de l'immigration choisie. Je rappelle déjà que dans l'échange dans nos pays, nous, en Europe, nous sommes des immigrés. Les Européens, j'allais dire l'homme blanc dans nos pays, ça s'appelle l'expatrié. Vous voyez déjà, personne ne pense même dans nos pays à dire, mais si on l'appelle non, sous le sang là-bas, à Paris, à Bruxelles ou à Londres, immigrés, pourquoi les blancs qui sont ici? D'abord, la définition, c'est celui qui quitte ces pays pour aller vivre et travailler à l'étranger. C'est exactement la même chose. Même s'ils sont accueillis dans nos pays comme des rois, alors que nous ici, voilà, on sait ce qui se passe en France en ce moment, puisqu'on a évoqué le problème, il y en a dans l'actualité, c'est que quelqu'un issu de l'immigration, quel que soit le degré, la génération, troisième, quatrième, cinquième, c'est toujours immigré de X génération et il a toujours 6 à 7 fois à diplôme égal, il a 6 fois moins de chances de trouver le boulot, quel que soit le boulot, que, j'allais dire, un indigène. Je rappelle que le mot n'est pas de moi, l'indigène, c'est la naissance du pays. On utilise ce mot dans nos pays, et dans les pays européens, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas le mot. Les mots ont le même sens partout. La francophonie, malheureusement, ne sert strictement à rien. Tout simplement, pourquoi? Parce que nos pays, quelque part, ne sont vraiment pas dirigés. Et m'est arrivé d'appeler les gouvernements africains les sous-préfets. C'est vrai que ça, bon, on m'a dit qu'il y avait un côté un peu excessif dans l'affaire. J'avoue que c'est un peu ce que je pense profondément, parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire, malheureusement, quand on leur propose de contribuer eux-mêmes à expulser, par exemple, leurs propres citoyens. Ils courent, ils rompent, ils signent pour qu'on le fasse. Or, le premier devoir d'un gouvernant, c'est protéger ses citoyens, protéger son sortissant, quel que soit l'endroit où il se trompe. Non pas qu'il encourage Joba à ne pas respecter la loi, mais il ne peut pas contribuer à ce qu'on l'expulse, parce qu'après tout, par exemple, ne pas avoir le papier, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime.
Merci, Paul.
Voilà, c'est administratif. On ne peut pas malmener les gens comme s'ils avaient tué quelqu'un.
Merci. Alors, docteur Yves Ekweamaizou, sur le plan économique entre la France et l'Afrique, et le président François Hollande a affirmé récemment dans une interview, je cite, et nous pouvons avoir des intérêts économiques, mais nous ne ferons pas une diplomatie qui seront celle de nos intérêts. François Hollande est-il sérieux quand il parle de la francophonie économique? C'est ma question, docteur Yves Ekweamaizou.
Un président français élu, il est par définition sérieux. Maintenant, c'est lui qui a dit qu'il veut faire une francophonie économique. Et le mot francophonie économique, donc, semble avoir partiellement disparu depuis ses différents discours à Dakar comme à Kinshasa. Deuxième élément que vous évoquez, un président, regardez les discours de tous les présidents français qui sont passés sur la francophonie. Écoutez, vous leur donnerez le bon Dieu en peinture. Donc, le problème n'est pas le discours aujourd'hui avec l'Afrique. Le problème est sa mise en œuvre. Et le problème de l'opération en Afrique est lié à l'organisation structurelle de nos États. Et ceux qui vont leur donner à cet État dont une certaine direction. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. Ce qu'on appelle le leadership. Ou tout ça mélangé. À partir du moment où le leadership ou la gouvernance n'est pas la nôtre, n'est pas celle de l'Africain, n'est pas celle du Togolais, du Béninois ou du Gabonais, c'est bien celui de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vais compléter ce qu'a dit Paul Rutting, parce que la francophonie, il a dit, ça ne sert à rien pour les Africains. Faut compléter la phrase. Par contre, la francophonie sert très très bien pour maintenir la puissance française. Elle sert très très bien pour permettre à un certain nombre d'entreprises françaises, souvent non compétitives, de pouvoir continuer à circuler, pendant qu'on oriente l'essentiel des forces vives africaines pour aller apprendre le français du XVIe siècle. Et nous laissons nos langues locales de côté. Et beaucoup plus grave, c'est que cette francophonie, qu'elle serve la France, on peut comprendre, éventuellement le Canada, mais c'est qu'elle a créé quelque chose que nous avons l'air de sous-estimer en Afrique, qui est un mélange d'individus très peu courageux, qui sont souvent apparentés traîtres, pour ne pas dire véritablement des traîtres à la cause du peuple africain, et qui, par couardise, ont préféré choisir s'aligner sur la puissance, soit externe, donc la France, soit sa représentation, que Paul a bien décrit sous forme de préfet, en Afrique. Alors, cette génération-là, elle a deux défauts. Soit elle s'aligne tellement que carrément elle met les intérêts de la France, ou occidentale en général, avant les intérêts des populations africaines. Comme ces intérêts sont contradictoires, par définition, les intérêts africains, comme on n'a pas de moyens de nuisance, disparaissent. La deuxième chose qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a une sorte d'aller-retour, de yo-yo, de boomerang, mettez le mot que vous voulez, de ces mêmes individus qui, à un certain niveau, on ne sait pas pourquoi, estiment que la France en fait trop, les exploite trop, et ils veulent changer. On a vu ça avec Houphouët Boigny, avec d'autres d'ailleurs. Mais la France a les moyens de les remettre au pas. Même Idriss Déby, je vous rappelle que il n'est pas venu à la francophonie, il est venu après. M. Kabila a dû aller à l'aéroport pour lui dire bonjour, parce que l'argent parle. Il n'a pas fait aller en Guinée équatoriale pour fêter l'anniversaire de Guinée équatoriale. Donc, Pourtant, c'est cette France qui l'a remis en phase en empêchant des troupes militarisées de le dégommer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette francophonie économique, si on en parle moins, c'est un nouveau mot, plus noble, plus original, pour cacher la France-Afrique. Parce qu'au fond, c'est du protectionnisme français.
Merci, docteur. Nous allons demander également l'avis de Paul Wetting. Paul Wetting, existe-t-il en réalité une francophonie économique? Quel est votre avis sur ce point, Paul Wetting?
La francophonie, c'est une stratégie géopolitique. Tout le reste, c'est vraiment la couverture ou prendre les gens pour les imbéciles. Et je fais partie des gens qui pensent que c'est l'Empire qui continue avec la version du 21e siècle, avec les mots adaptés, les mots contemporains. Mais en fait, c'est ça, économique. Cela voudrait dire que donc nos matières premières, les prix de nos matières premières, même au moment où nous parlons encore, sont fixés donc ailleurs que sur le continent africain. Suivez mon regard, que ce soit l'uranium au Niger. Je rappelle que le Niger est l'avant-dernier pays pauvre du monde. Or, elle a la matière première la plus chère, l'uranium, qui permet à la France, par exemple, 40% à la France, d'être une puissance classée comme puissance nucléaire, alors qu'il n'a pas un grain d'uranium sur son sol. Le pétrole dans la zone de la Guinée, de la forêt, c'est le prix est fixé toujours ailleurs. Si on parle d'économie, c'est dans ce sens-là, sens unique en quelque sorte. Mais comme on n'a pas de véritable gouvernant, on accepte ce que l'on propose. Parce que les indépendances, la souveraineté, non seulement on n'en a aucune, ni politique, ni géopolitique, ni surtout économique parce que ça permet l'économique, ni surtout monétaire, les deux, économique et monétaire, permettent de poser les bases du développement avant toute autre chose. Or, ces deux choses-là, ça fait 50 ans que nous sommes décrétés indépendants, on n'a pas ces choses-là. Et si on parle d'économie, dans le cas de la francophonie ou ailleurs, c'est malheureusement comme cela qu'il faut comprendre, et non dans l'autre sens. Ou alors, nous sommes tout simplement un marché de consommation de produits fabriqués ailleurs que les Chinois sont en train peut-être de disputer un peu aux autres, qui commencent à mal prendre, j'allais dire, le fait chinois. Il ne manquait que cela. L'Europe, on a été soumis par la puissance occidentale. Aujourd'hui, c'est la Chine qui arrive sur ce continent. Il n'est même pas impossible que demain, les deux puissances asiatiques et européennes se mettent d'accord. Eh bien nous, pour s'asseoir sur nous et prendre ce qu'ils veulent dans nos pays, parce qu'on est comme des pays...
C'est vraiment regrettable, oui. Merci.
Absolument.
Merci. Merci, Paul Wetting. Donc, pour vous, il est clair qu'il n'existe pas, en réalité, une francophonie économique. Alors, docteur Yves Kouyama-Iso, François Hollande parle aussi de solidarité entre la France et l'Afrique. Et là, la francophonie de la solidarité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Notamment en référence à la zone franc et au franc CFA. N'est-ce pas qu'une francophonie de la culture française, docteur Yves Kouyama-Iso? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais vous dire tout de suite, mais j'aurais voulu aussi que vous nous disiez ce que certains de nos chefs d'État ont dit. Après tout, il y a quelqu'un qui a invité les autres, c'est Kabila. J'aurais voulu que vous choisissiez des jolis mots dans les discours de Kabila, parce que des problèmes, il en a beaucoup, et comme il y a eu une usurpation de son pouvoir, c'est assez intéressant de savoir s'il répond aux objectifs de la francophonie qui dit l'affirmation et le développement entre ses membres qui souhaitent une coopération multilatérale dans les domaines ressortissants de l'éducation, la culture, la science, la technique et au rapprochement des peuples. Alors, si rien que ça, vous l'appliquez au Congo, je crois qu'il y a quelques petits problèmes pour M. Kabila. Quand vous l'appliquez aux pays voisins et lui-même, même le cas du Rwanda, il y a quelques petits problèmes. Alors, quand vous souhaitez savoir si cette solidarité existe au niveau de François Hollande, certainement dans son discours et dans ses objectifs, et on ne peut pas en douter. D'ailleurs, c'est cette solidarité qui est le principal fondateur de la communauté francophone, sur tous les plans, politique, opérationnel, concertation, coopération. Sauf que, rappelez-vous, convention de Yaoundé, convention de Lomé, convention de Cotonou, ou bien l'accord de Cotonou, l'accord de partenariat économique. Voilà, voilà, pratiquement des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez que nous vendons encore moins avec l'Union européenne. Nous n'avons pas diversifié à l'intérieur. Nous vendons toujours des matières premières non transformées. Pourtant, il n'y a pas un seul café, caféier ou cacaoyer ou bananier ou, à Paris, encore moins à Bruxelles. Donc, Paul Heuting a bien posé le problème des matières premières. Le fondement de toute émergence, d'évolution économique, et donc de solidarité, il faut d'abord avoir une marge économique, et donc un surplus, avant de décider que ce surplus, je peux l'utiliser pour mon voisin, sans arrière-pensée. Mais vous voyez déjà que le surplus, quand il est là, il est déjà accaparé par ceux qui sont au pouvoir pour la plupart, qui le divisent ou le redivisent au niveau d'une certaine oligarchie clanique que vous connaissez. Au-delà, la population reste dans sa pauvreté la plus entière. Des inégalités criantes. D'ailleurs, je vous rappelle que les inégalités ont triplé hein, en moins d'une dizaine d'années en Afrique. La plupart des pays qu'on voit, et plus particulièrement dans les pays francophones. Donc, voilà, voilà. La solidarité et les inégalités ont augmenté. Un autre élément très intéressant, nous vendons toujours plus des matières premières non transformées, avec des dévaluations d'un franc CFA que vous connaissez, et dont 50% des recettes sont gérées par Paris à part le compte d'opération. En quoi il y a une solidarité? D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'il faut faire très attention, parce que la solidarité dans la bouche d'un président français, qui actuellement a des grandes difficultés économiques avec Mme Merkel, avec l'Europe en général, pourrait signifier que, écoutez, les 50% que vous nous remettez pour faire ce qu'on veut, ce n'est pas suffisant. Peut-être que la solidarité, c'est du sud vers le nord. Pour être très concret, quand un Africain moyen a gagné son salaire, il va falloir qu'il donne la moitié d'abord à la France. Eh oui, parce que merci, c'est ça, la solidarité. Vous la voyez toujours du haut vers le bas, du nord vers le sud. Merci. En réalité, lisez le livre de Paul Heuting. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est du sud vers le nord.
Alors, Paul Heuting, est-ce qu'on peut dire que les pays africains francophones jouissent vraiment de cette solidarité dont parle François Hollande, Paul Heuting?
Non. Malheureusement, non. La réponse est non avant vraiment tout le détail. Le mot dans les relations France-Afrique, vraiment, n'a aucun sens. Aucun sens. Ça, nos pays fonctionnent sur la base des dictats. Yves disait tout à l'heure, on ne rappelle pas qu'est-ce que les autres ont dit alors. Il y avait comme 12, 13 petits élèves assis en train d'entendre ce que le grand maître disait. Je crois que personne n'a aussi même levé le doigt ou alors on a parlé, mais après qu'ils soient partis. Voilà. Quand il y a solidarité, relation, il y a débat. C'est-à-dire échange de projets, de discours, etc. On a rappelé que Diouf disait que c'est inconcevable que les Africains francophones soient tout seuls sans président français. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça montre à quel niveau nous sommes encore. Ça veut dire que bon, on n'est pas sortis de l'auberge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je crois qu'il a passé 3 heures ou 4 heures. Il n'a même pas dormi, je crois, à Kinshasa. Il a repris son avion. Je crois qu'on ne dort pas dans ces choses-là, là-bas, comme ça. On pense son avion, on repart un peu. On repart. La solidarité n'a strictement aucun sens. Et pour que ça ne doit pas tomber du ciel, ce que nous disons là, la souveraineté, la liberté, la légitimité, ça ne tombe pas du ciel. Ça se travaille, ça se conquiert. Si depuis 50 ans, à chaque sommet, on se couche, on écoute, on s'en va, on dit le maître a parlé, le souverain a parlé, j'allais dire que c'est pas demain matin que ça va nous tomber dessus. Je crois que je rêve, malheureusement, c'est un rêve pour moi, le jour où on aura les vrais gouvernants, ceux qui ont le sens de l'État, le sens de l'histoire, un peu de dignité, un peu ce que sont en train de faire on peut dire tout ce qu'on veut, la colonisation, les Anglais aussi ont fait, les autres ont fait, mais ce qu'on appelle l'Afrique anglophone, le Ghana, l'Afrique du Sud, etc., c'est quand même pas pas de la même manière.
Justement.
Ils ont quand même un minimum de souveraineté.
Ce temps quand même va arriver, Paul Whiting. Ce temps va arriver. Alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat. Une dernière question brève et une réponse. Une réponse brève également. Hein. Alors, docteur Yves Kouyama, ils ont une question que peuvent se poser certains Africains. Est-ce que la francophonie des chefs d'État existe-t-elle? Et ça, ce serait là également votre mot de fin dans ce débat sur la francophonie, docteur Yves Kouyama.
Mais Paul Whiting vous a donné la réponse. Il y avait plein de chefs d'État qui, eux, n'ont pas parlé. Donc, ils sont déjà bien ensemble. C'est bien la francophonie des chefs d'État. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Au-delà de la francophonie, il y a d'autres groupes ésotériques. Il y a d'autres groupes qu'on ne connaît pas qui organisent une certaine solidarité syndicale des chefs d'État africains, sous-régionales, francophones. Et c'est d'abord pour nuire aux populations et après servir les intérêts extérieurs. Donc oui, elle existe, elle n'est pas officialisée dans la presse. Mais vous avez vu un chef d'État francophone mettre en cause un autre chef d'État francophone? Vous serez étonné. Je me rappelle même que, pour le cas du Togo, le président Ouad a bien conseillé le président du Togo. Non pas pour la démocratie, mais pour rester au pouvoir, en attendant que son fils prenne la relève, comme avait dit Paul Whiting au départ. Donc oui, ça existe, mais ce n'est pas toujours visible.
Merci. Merci beaucoup, docteur Yves Kouyama. Iso, la même question à Paul Whiting. Est-ce que la francophonie des chefs d'État existe-t-elle? Et Paul Whiting?
Si ça existait, Sylvain, il ne passerait pas par Paris. Le simple fait qu'il passe par Paris est une réponse négative. Ça n'existe pas. J'allais dire même, politiquement quelque part, je suis tenté, avec à peine d'exagération, les chefs d'État francophones, pardon, qu'on me pardonne, n'existe politiquement pas, hélas, pour nous, peuple africain.
Voilà. Paul Whiting, merci pour cette brève réponse qui doit quand même interpeller tout Africain qui aime bien ce continent noir. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur la francophonie. Nous avons débattu du thème « Qu'apporte réellement la francophonie à l'Afrique ? Existe-t-il une francophonie économique entre la France et l'Afrique ?» Et bien sûr, les réponses ont été bien abordées et bien expliquées dans ce débat de la première partie et de cette deuxième partie également. Alors, merci également au Camerounais Paul Whiting, journaliste, essayiste, auteur, entre autres, en 2012, de Le Bourreau a tué trois fois. Réflexion sur des siècles du traité négrier, édition Horizon à Paris. Également le Togolais Dr Yves Kouyama Iso, directeur du groupe d'influence Afrocentricity Think Tank. Il est également consultant international et enseigne dans un business school. Messieurs et Dr Yves Kouyama Iso, Paul Whiting, merci à vous.
Merci à vous. Au revoir.
TogoCity.com. IciLomé.com. CVU-Togo-Diaspora.org. MO5-Togo.com. Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information. Partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, merci pour votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et nous sommes la voix des opprimés. Eh bien, je l'avais annoncé en début de cette émission et qu'après ce débat sur la francophonie qui s'est tenu il y a quelques jours, le sommet de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous allons également aborder les sujets brûlants de l'heure sur l'actualité politique au Togo. Mais bien avant de recevoir notre invité, et qui n'est autre que Maître Apévon Ducard, nous recevons tout de suite en direct depuis Lomé notre correspondante Fabi Kwasi. Fabi Kwasi, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Alors Fabi, malgré les conditions de troubles politiques actuels au Togo et le gouvernement Sarchana a organisé les élections législatives, alors la composition de la CENI et Commission électorale nationale indépendante est déjà contesté par l'ensemble de l'opposition. Alors, Fabi, et décidément, il y aura finalement des élections au Togo, Fabi.
En tout cas, c'est la stratégie du gouvernement togolais qui reste fidèle à sa manière de coup de force et de passage en force au nom d'un respect d'un certain calendrier républicain et électoral. Fornia Simbe et compagnie sont décidés finalement à organiser les élections, on va dire truquées par avance, hein, auxquelles ils vont y participer seuls et dont ils seront véritablement les seuls gagnants malgré que le nouveau parti Unir de Fornia Simbe peine à s'implanter sur le territoire national. Rien ne peut justifier en ce moment cette précipitation, si ce n'est la certitude de voler les élections comme de coutume avec les régimes assignés premiers de première étape de l'actuel coup de force, comme tu l'as dit Sylvain, dans un contexte de contestation tous azimuts du pouvoir en place. La recomposition unilatérale de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, organe de fraude à souhait, qui suscite actuellement un tollé de la part des forces démocratiques qui, pour une fois renferrées, promettent que ce énième coup de force ne passera pas. Le gouvernement semble dire « nous ferons les élections avec ou sans l'opposition ». L'opposition semble rétorquer « les élections n'auront pas lieu dans ces conditions ». Et donc, c'est loué ainsi par ici.
Oui, Fabi, les hommes de médias au Togo sont également en colère, et car en réalité, l'insécurité règne surtout et sur les lieux de reportage de ces journalistes. Hein. On nous a parlé d'un sitting du SOS Journaliste en danger. Est-ce que ce sitting a eu lieu, Fabi Kouassi?
Exactement, face aux agressions dont sont victimes intentionnellement depuis un certain temps les confrères de la presse ici, SOS Journalistes en danger et le Radio 7, c'est le réseau africain des journalistes sur la sécurité humaine et la paix, appelle à un sit-in le mardi prochain, sit-in devant le ministère de la Sécurité pour protester contre l'insécurité à laquelle fait face les journalistes sur les lieux de reportage. Ces associations de presse protestent surtout contre les menaces et agressions auxquelles les journalistes doivent faire face. Après Noël Tadeignan, vous rappelez certainement, qui a failli perdre la vie le 27 avril dernier, à la suite d'un coup mortel qu'un agent en uniforme lui a asséné à la nuque, c'est le tour de Justin Anani le 5 octobre dernier d'être la cible du commissaire Babarim depuis silence radio du côté des autorités sécuritaires. Les forces de l'ordre étant rassurées de l'impunité dont elles jouissent continuent de disposer de la vie des citoyens comme dans une jungle. On se rappelle que le 15 septembre dernier, les miliciens du pouvoir s'en sont pris aux paisibles populations avec la complicité, malheureusement, de la police et de la gendarmerie togolaise.
On parle maintenant de l'ancien ministre togolais Pascal Boudjouran, impliqué dans une affaire d'escroquerie à l'international. Et cet ancien ministre est toujours gardé à la gendarmerie il y a environ 2 mois. Alors Fabi, quelle est la suite de cette affaire et qui, selon certains, prend un caractère politique?
En tout cas, c'est le statu quo judiciaire et politique dans l'affaire Pascal Boudjouran. Petite évolution, c'est cette intrusion d'une pseudo-journaliste du nom de Marceline Ameublé qui est à la recherche de la fiche médicale du ministre Boudjouran actuellement détenu arbitrairement à la gendarmerie nationale dans une ténébreuse affaire d'escroquerie, comme vous l'avez dit, impliquant le richissime homme d'affaires Bertin Aga, le français Loïc Le Floch Prigent, qui est toujours à la gendarmerie togolaise, le ministre Boudjouran et l'escroc plénant Agassa Youssef. Et donc une fiche médicale du ministre Boudjouran, pourquoi faire? C'est la question que tout le monde se pose par ici. En tout cas, selon les recoupements, Marceline Ameublé Delonou travaille pour les renseignements et s'invite depuis quelque temps dans les manifestations et conférences de presse du collectif Sauvons le Togo et arrive à avoir des rencontres avec les responsables de l'opposition dans le but d'avoir des informations à soumettre à qui de droit. La visite inopinée de notre fameux journaliste chez le président du MRC à Daskamwa dans le but d'avoir la fiche médicale d'un des prisonniers et personnels de Fornia Simbe a permis à monsieur le président du MRC et d'alerter le directeur d'Alternative puisque la fille prétend travailler chez notre confrère Ferdinand Haïté. Ainsi, l'opinion nationale a été alertée sur ces genres de méthodes dont le pouvoir toujours usé et abusé pour nuire aux citoyens par ici. Depuis l'avènement de Fornia Simbe au pouvoir, il faut le dire, c'est la recrudescence des systèmes de mise sur écoute systématique des citoyens qui est quand même punie par les lois au Togo puisque l'écoute est interdite par la constitution togolaise. les menaces anonymes, les filatures, les agressions physiques et, aux dernières nouvelles, Sylvain, les avocats du ministre Bojona comptent suivre cette affaire de la pseudo-journaliste Marceline Ameublé de Presse et la tirer au clair.
Fabi Kouassi, merci et à samedi prochain.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. Cet adage négatif peut être interprété comme une illustration du pouvoir togolais qui, nonobstant les troubles politiques graves que traverse actuellement le pays, se prépare à organiser dans quelques mois les élections législatives. Et pourtant, les réformes institutionnelles et constitutionnelles en vue de garantir des élections libres et transparentes au Togo n'ont jamais connu d'aboutissement selon le constat de l'opposition. Mais attention, la lutte togolaise aboutira, pourvu que nous autres cadres de ce pays nous ne trahissions pas cette lutte, affirmait il y a 8 jours, dans cette même émission, Fenêtre sur l'Afrique, le doyen Godwin Tété. Le mot trahison revient donc à chaque fois quand on parle de lutte démocratique dans ce pays, le Togo. Mais le peuple africain, et principalement togolais, trahit-il en réalité la lutte pour sa libération? On nous répondra par la négativité. Eh bien, parfait. Alors, qui trahit? Cherchez l'erreur, chers amis, fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Les Togolais sont aujourd'hui en mesure d'apprécier les effets négatifs de la gouvernance de Faure Gnassingbé et de son gouvernement uni, RPT Yago, que les bailleurs de fonds présentaient après les élections contestées de 2005 et de 2010 comme une victoire de la raison. Ces bailleurs de la communauté internationale qui ferment les yeux sur les crimes économiques et électoraux dès lors que leurs intérêts sont en jeu ont cru, du moins, ou croient à la capacité de Faure Gnassingbé d'apporter une solution aux problèmes quotidiens de tous ordres rencontrés par les Togolais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel s'indignent du coup de force qui vient de perpétrer le pouvoir uni, UFC, RPT, en désignant, contre tout bon sens, les membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. En effet, dans le contexte de la crise politique actuelle, qui devait exiger d'un gouvernement responsable des actes d'apaisement et à la recherche du consensus, la majorité gouvernementale poursuit sa politique de provocation, non seulement en désignant les membres de la CENI sur la base des lois scélérates unilatéralement modifiées, mais aussi en s'arrogeant la quasi-totalité des membres de cette CENI. Ce comportement du gouvernement atteste une fois encore sa mauvaise foi et sa volonté manifeste de plonger le pays dans un chaos certainement plus grave que la situation vécue par les Togolais en 2005. Le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel mettent en garde le gouvernement de vouloir organiser à tout prix et même dans un bain de sang les prochaines élections. Si le peuple ne trahit jamais la lutte démocratique pour sa libération, alors qui de la communauté internationale ou des politiques togolais met en cause la libération du Togo? Une question qui mérite beaucoup de réflexion.
Je m'insurge contre le viol de ma dignité, ma grandeur, ma noblesse, mon bonheur et ma fierté. Je m'insurge par ma colère diffuse, latente, résistante et révolutionnaire, en appelant aux âmes et à l'esprit de nos ancêtres, aux dignes fils de l'Afrique. Sundiata Keita, Kwame Nkrumah, Samori Touré, Aïlessi Lassier, Tavio Amorin et King Luther. Pour nous éclairer, à faire échec à ces fils indignes de l'Afrique, père d'aliénation, d'humiliation, de confiscation et de dilapidation de nos deniers publics, à tel point que je me demande à quoi sert la République. Les élections présidentielles et la démocratie en Afrique, et oui, en Afrique où nos leaders chefs volent nos expressions pour livrer à des coûts moindres notre richesse, notre dignité, notre âme. Fils indigne, fils indigne, fils indigne, fils indigne.
Bon, y aller.
Galvaudé, trahi comme Dalila et Judas, l'idéal est le développement de tout un continent. Je m'insurge contre ces fils indignes.
Eh bien, je m'insurge contre tous ces fils indignes. Fils indignes, c'est le morceau chanté par le jeune Togolais Amtek. Eh bien, vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Un coup de force électoral se prépare-t-il au Togo? Eh bien, c'est ce que pensent certains Togolais, car le pouvoir togolais, malgré le climat politique très tendu, vient de mettre en place la Commission nationale indépendante en vue des prochaines élections législatives. Pour l'heure, aucune date n'est encore publiée. En revanche, l'opposition conteste déjà la composition de cette CENI. Eh bien, tout de suite, nous allons accueillir en ligne, en direct depuis Lomé, Maître Apevon Djoukar, Maître Dodi Apevon. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Kanal K.
Merci de répondre à notre invitation encore une fois dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Maître Dodi Apevon, et vous êtes bien connu du public togolais, même sur le plan international. Vous êtes le président du CAR et Comité d'Action pour le Renouveau. Votre formation politique a annoncé la suspension de ses représentants à la CENI et Commission électorale nationale indépendante. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette décision sur le processus électoral en cours, Maître Apevon?
Oui, merci de l'opportunité que vous me donnez là pour éclairer un peu nos compatriotes qui sont dans la diaspora sur les événements que nous connaissons au Togo ces derniers temps, et surtout sur l'effort que nous sommes en train de faire ensemble et collectivement pour créer l'événement de l'alternance chez nous. Vous savez très bien que le problème que le Togo a connu depuis la période de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est la mauvaise organisation des élections. Et l'événement s'est accru fondamentalement depuis que nous avons voulu entrer en démocratie. ceux qui nous ont conduits en période de parti unique n'ont pas envie de quitter le pouvoir. Et c'est pour cette raison que ils se débrouillent toujours pour organiser des élections traficotées, des élections bâclées, au cours desquelles ils volent, ils trichent pour se maintenir au pouvoir. Alors, en cette période-là, nous avons envie de faire en sorte que l'organe qui est chargé de la régulation de l'organisation des élections, c'est-à-dire la CENI, puisse être un organe le plus neutre possible. Ce que nous n'avons jamais obtenu dans ce pays. Et la CENI est toujours déséquilibrée et ce déséquilibre-là est renforcé par la nomination du président qui est toujours du bord de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, nous disons que en respectant l'accord que nous avons signé qui est consacré par l'accord politique global, que nous faisions en sorte que la CENI soit la plus équilibrée possible. C'est le problème que nous avons posé. Alors, pourquoi nos membres ont suspendu leur participation? Ils ont suspendu leur participation parce que la CENI qui est actuellement en exercice est une CENI résiduelle. C'est la CENI qui a organisé l'élection présidentielle qui normalement doit partir pour laisser sa place à une nouvelle CENI. Mais les nôtres sont restés dans cette CENI en attendant qu'une nouvelle CENI soit désignée, soit élue. Mais on a constaté qu'on leur demande de faire des tâches aujourd'hui qui sont les prérogatives de la nouvelle CENI qui doit organiser les élections législatives. C'est pour cette raison que une série de tâches leur est confiée et malgré leur protestation, ils ont décidé de suspendre leur participation à cette CENI-là. Ça, c'est pour l'ancienne CENI. Maintenant, pour la nouvelle CENI qu'on doit mettre en place, cette CENI-là, comme je le disais tantôt, doit être une CENI équilibrée entre la majorité et l'opposition. Et à 2010, à Ouaga, nous avons fait en sorte qu'un équilibre, plus ou moins, intervienne dans la composition, dans la désignation des membres. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas fait de dialogue, puisque les conditions que nous avons posées pour aller à un dialogue ne sont pas remplies. Il n'y a donc pas de dialogue. Et le pouvoir a décidé unilatéralement de composer la CENI.
Justement, parlant de la composition de la CENI, Maître Pivon, et votre allié de la CDPA a déclaré avoir pris acte de l'élection de son représentant, Sebaby Boutou, et par l'Assemblée nationale. N'est-ce pas contradictoire avec votre décision, Maître Pivon?
Non. Je crois qu'il faut comprendre très bien la position de la CDPA. Cette position est très simple. Parce que lorsque je vous ai expliqué la chose tantôt, je disais que lorsque on doit recomposer la CENI, on nous a envoyé depuis février, le ministre de l'administration territoriale à l'époque, Bojona, nous avait envoyé une lettre pour envoyer des noms à la CENI et pour être désigné par l'Assemblée nationale. Mais nous lui avons répondu en lui demandant, mais qui est l'opposition? Parce que en réalité, dans la composition, ces membres doivent revenir à l'opposition. Et la majorité aussi doit désigner 5 représentants. Et nous lui avons demandé de nous dire, l'opposition aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, doit être composée par quel parti? Et quel parti? L'opposition parlementaire, j'entends. Parce que pour nous, l'opposition parlementaire, aujourd'hui, n'est composée que de l'ANC et du CAR. L'UFC ayant signé un accord de gouvernement avec le RPT, ne peut plus se targuer de prendre dans le quota de l'opposition. Ce débat-là, nous avons voulu l'ouvrir depuis février. Ils ont esquivé la chose. Et lorsque récemment l'Assemblée nous a écrit, nous avons posé le problème. Et aujourd'hui, et nous disons que tant que ce débat-là ne sera pas clarifié, il est illusoire de dire que nous allons composer une CENI. Et la preuve est que lorsqu'ils sont allés la dernière fois à l'Assemblée, l'UFC a pris trois représentants sur les 5 qui doivent revenir à l'opposition, en disant que oui, malgré le fait que lui a signé un accord de gouvernement avec le RPT, ou INIR, c'est selon, il est toujours, ou elle est toujours, de l'opposition. C'est-à-dire, c'est une aberration totale. Ce qui veut dire que sur les 17 membres de la représentante de la CENI, au plus, l'opposition aura peut-être 4. Si on tient compte de la CDPA et du CAR, peut-être demain ou d'une société civile. On aura tout au plus 4. On ne peut pas l'accepter. Alors, la CDPA, au moment où on leur avait demandé il y a plusieurs mois d'envoyer des noms, la CDPA a envoyé le nom de Sibadi. Mais compte tenu de l'évolution, compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas répondu à notre préoccupation et que nous ayons refusé d'envoyer des noms, l'ANC ayant refusé d'envoyer des noms, la CDPA a dit, mais moi je ne peux pas envoyer mon représentant dans cette CENI-là, même s'il est élu aujourd'hui par l'Assemblée nationale, il ne peut pas siéger tant qu'il n'y aura pas un consensus sur la composition de la CENI.
Merci,
la
maître.
Composition actuelle de la CDPA.
Merci, maître, de nous avoir quand même éclairé sur cette inquiétude et par rapport à la position de la CDPA. Alors, nous avons également en ligne, en direct depuis le Royaume-Uni, notre collaborateur du site d'information www.togo-online.co.uk et Lucien Honkali qui va vous soumettre également quelques questions. Lucien Honkali, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et bonsoir, Lucien.
Bonsoir, merci. Bonsoir, maître.
Bonsoir, Monsieur Honkali.
Bonsoir. Maître, je vais juste vous demander si, selon votre explication tout à l'heure, est-ce que allons-nous vers un boycott, si, puisque le gouvernement est dans une logique de forcing?
Oui. Votre question, elle est importante. Nous-mêmes, nous sommes préoccupés aujourd'hui par ce que vous demandez là, parce que dans l'analyse de tous les jours, nous demandons si ces gens-là forcent la situation et foncent dans le mur, qu'est-ce que nous faisons? La première chose, c'est que nous devons tout faire pour les obliger à revenir à la table de négociation. Nous devons tout faire pour faire en sorte qu'un dialogue s'ouvre et pour que finalement on aille vers une composition plus sereine de la CENI et le règlement des autres problèmes concernant par exemple le découpage, concernant le problème de la limitation de mandat, concernant le problème du mode de scrutin. Il faut nécessairement faire un dialogue dans ce pays pour aboutir à tout cela. La fuite en avant que nous constatons aujourd'hui au niveau du pouvoir risque de compliquer encore un peu plus la situation togolaise. Parce que s'ils s'entêtent pour organiser les élections dans ces conditions-là, la crise va s'aggraver. Et ils doivent le comprendre et nous devons tout faire pour les amener à cela. Mais si à tout hasard, ils refusent, il est également question au niveau de pour la classe politique de réfléchir autrement. Parce que les voix s'élèvent aujourd'hui pour nous dire, mais ces gens-là, comme ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils vont inventer des artifices pour se maintenir et vous empêcher ou vous pousser au boycott de ces élections-là. Si vous les boycottez, vous risquez de le regretter. Alors, ce que les gens nous conseillent aujourd'hui, c'est de tout faire, même s'ils foncent comme ça dans le mur, d'être présents, mais en envoyant des candidatures communes, c'est-à-dire en ayant des candidats communs partout, toute l'opposition faisant bloc contre eux pour pouvoir gagner les élections. Ça, c'est une alternative que nous sommes en train d'analyser.
Oui, maître Apévon, avant de relancer encore une fois notre confrère Lucien Honkali, maître Apévon, vous revendiquez qu'il y a toujours un dialogue en vue de mettre en œuvre les réformes avant la tenue des élections au Togo. Hein. Alors, qu'est-ce qui empêche la tenue du dialogue actuellement? Et le pouvoir évoque votre refus obstiné de ne pas répondre à ces convocations, maître Apévon.
Oui, bon, ça c'est, ils ont beau rôle, hein, ils ont beau rôle de dire que c'est nous qui refusons de venir au dialogue. Mais nous leur avons rappelé pendant plusieurs séances que les conditions dans lesquelles ils convoquent ce dialogue-là ne sont pas des conditions normales. Ils seraient à notre place, ils réagiraient de la même manière. Je vous donne juste un exemple. L'avant-dernier dialogue, lorsque le Premier ministre Ahoumé allait le convoquer, on nous a envoyé à nous, au niveau de la coalition arc-en-ciel, une invitation. Or, en ce moment-là, nous ne faisions pas encore de manifestation ensemble avec le collectif Sauvons le Togo.
Mais nous leur avons demandé, mais si, pour que ça soit un dialogue inclusif, est-ce que vous avez envoyé également une invitation au collectif Sauvons le Togo? Le Premier ministre nous a répondu non. Mais on lui a dit, mais c'est surprenant que vous invitez la coalition arc-en-ciel à venir à une discussion et que vous n'envoyez pas la même invitation au collectif Sauvons le Togo. Alors, c'est sur notre insistance que finalement, ils ont envoyé une invitation la nuit à 22h30 au président de la coalition à son domicile. Alors, ça prouve que ces gens-là n'ont pas envie de voir tout le monde à la table de négociation. Ça, c'est un exemple banal que je vous donne. Mais le second, lorsque ils ont repris la chose une seconde fois, cette fois-ci, ils n'ont même plus envoyé, alors que nous sommes en coalition. Nous avons des revendications au niveau de nos coalitions. Ils n'ont même plus envoyé d'invitation à nos coalitions respectives, pas à la coalition arc-en-ciel, ni au collectif. Ils ont pris quelques partis parmi nous et à qui ils ont envoyé des invitations. Ça dit que ces gens-là n'ont pas de volonté pour faire de dialogue. Et les quelques préalables que nous avons posés, notamment par exemple le problème de la limitation de mandat avec effet immédiat, nous leur avons demandé de montrer un signe, parce qu'un dialogue entre majorité parlementaire et opposition parlementaire s'est heurté au problème de la limitation de mandat. Lorsqu'on est allé à ce dialogue-là, on a voulu commencer le dialogue parce que lorsque nous avons catalogué les points à discuter, il y avait en premier point le problème de la limitation de mandat. Ils ont refusé qu'on commence le dialogue par ce point. Et pendant 3 jours, on n'a pas entamé le dialogue à cause de cela.
Mais maître, parlant toujours du dialogue au Togo, vous fustigez l'attitude de la communauté internationale. Hein. Alors qu'attendez-vous aujourd'hui des partenaires dont vous n'hésitez pas à bouder les convocations pour échanger sur le processus électoral au Togo?
Non, c'est-à-dire que nous ne sommes pas fustigés de la communauté internationale. C'est vrai que la communauté internationale ne joue chez nous qu'un rôle d'accompagnement. Le problème principal, d'abord, c'est entre les Togolais eux-mêmes. Mais lorsque nous constatons que l'attitude d'une de ces institutions-là s'apparente à un obstacle sur la situation togolaise, nous disons non. Parce que la dernière fois, le PNUD avait fait venir des experts ici pour discuter, mais la situation, sur à quoi le PNUD voulait raccrocher cette discussion-là, nous paraissait comme un appui au pouvoir en place. C'est pour ça que nous avons dit non, mais ce n'est pas possible. Parce que l'appui au processus électoral, ils disent que c'est un appui au processus électoral. Nous lui disons que tant qu'on n'aura pas discuté, dialogué, dire que le processus est déclenché et qu'il faut voir comment il faut aller voter, pour nous c'était prématuré, c'est pour ça que nous ne sommes pas allés. Ils doivent comprendre eux aussi la situation du Togo et nous aider à avoir la paix chez nous.
Lucien, vous allez, vous avez encore des préoccupations, Lucien?
Absolument, j'en ai Amos. Maître Apévon, est-ce que pourquoi vous fustigez la communauté internationale du fait par les principales, parce qu'ils ont refusé les principales concessions ou bien?
Non, c'est-à-dire que la communauté internationale, nous disons que ce qu'ils doivent faire chez nous, c'est qu'ils sont chez nous, c'est vrai, ils nous accompagnent dans ce qu'on est en train de faire, mais ils doivent être à l'écoute de tous les protagonistes de la crise togolaise. Et c'est vrai, ils doivent écouter le gouvernement, mais ils doivent en même temps écouter l'opposition togolaise qui a également des préoccupations à faire valoir. Mais s'ils font la chose de telle manière qu'on sente qu'eux, ils disent oui, allons au dialogue, allons aux élections, mais nous ne pouvons pas marcher dans cette combine-là. La preuve est qu'à plusieurs reprises, lorsqu'ils nous ont rencontrés, ils nous ont dit, mais allez discuter du cadre électoral pour aller aux élections législatives. Nous avons dit, mais pour discuter de ce cadre-là, nous voulons discuter en même temps de tout ce qui concerne les réformes à faire. Ils ne comprennent pas nos positions en disant, mais pourquoi on parle d'élections législatives, vous parlez de réformes constitutionnelles qui ne concernent que les élections présidentielles qui vont venir dans 2 ans. Alors, nous avons fait le même cheminement en 2006. Lorsqu'on est allé au dialogue de 2006, le RPT nous a trompés. En disant oui, discutons seulement des points qui concernent les élections législatives. Une fois les élections législatives faites, nous allons faire les réformes. On est allé aux élections législatives de 2007, Et après, ils ont fait le blocage pour qu'on ne fasse jamais les réformes constitutionnelles. Et maintenant, les élections législatives viennent une seconde fois. Après 5 ans, on nous dit, mais discutez seulement des réformes concernant les élections législatives et les réformes constitutionnelles, on les verra plus tard. Mais c'est un marché de dupes que nous n'accepterons pas.
Maître Apévon, rapidement une dernière question puisque le temps est court pour nous dans cette émission. Et je disais que la classe politique togolaise conteste la composition de la CENI également. Et cette classe politique parle de passage en force de la part du pouvoir et qui, malgré les conditions très tendues au Togo, veut organiser les élections législatives. Alors quels sont les actes qui vous confortent dans cette thèse, Maître Apévon?
Mais les actes qui nous confortent dans cette thèse, c'est que depuis que nous sommes en train de parler d'apaisement pour que les préalables ou les conditions posées par l'opposition soient remplies pour qu'on aille à un dialogue réel, franc, sincère et honnête, mais nous n'avons jamais obtenu cela. Mais au moment où on a parlé de problèmes liés au découpage et tout ça là, Le gouvernement a toujours fait des va-et-vient. De 81 sièges, ils sont allés eux-mêmes à 91, et puis après, brutalement, ils sont redescendus à 83. Mais personne ne comprend ce qu'ils font. Au jour d'aujourd'hui, mais composer la CENI dans ces conditions-là, mais nous estimons que c'est de la provocation. Alors, et nous avons écouté le ministre Bawara de l'administration territoriale sur les médias. Et il dit oui, ils ont des impératifs en tant que gouvernement. Si nous on ne veut pas venir, eux ils vont foncer, même si le pays doit brûler. Bon, que ça brûle, ils verront ce qui va se passer. Mais ça c'est des risques qu'ils font prendre à notre pays inutilement. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ils le recommenceront. Et j'ai même appris que l'un des barons du RPT, au moment de la désignation des représentants dans la CENI la dernière fois, n'était pas content avec ce qui est en train de se faire. Il leur a posé la question de savoir si ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne seront pas obligés de recommencer demain. Nous ne sommes pas dans un pays pour un perpétuel recommencement. Nous avons besoin du temps pour nous atteler aux tâches de développement pour notre pays. Il faut un temps aujourd'hui pour les problèmes politiques et un temps pour les questions de développement.
Merci.
Ils ne vont pas nous faire ce travail décisif tout le temps.
Merci.
Il doit prendre garde de ce qu'ils sont en train de faire actuellement.
Merci beaucoup, Maître Apévon, président du CAR et comité d'action pour le renouveau, d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, nous sommes arrivés à pratiquement la fin de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Eh bien, toutes nos excuses à tous nos auditeurs qui n'ont pas pu nous suivre en direct sur notre site www.canalk.ch. Eh bien, il y a eu des interruptions sur notre suite et c'est suite à un problème technique. Nous allons y remédier la prochaine fois. Encore une fois, toutes nos excuses et merci de votre fidélité. Mais quand même, vous pouvez réécouter cette émission sur nos sites partenaires www.cvu-togo-diaspora.org, togo-online.co.uk, www.togocity.com et www.icilomé.com, ou également notre émission sera rediffusée demain dimanche sur notre radio partenaire Lomé au Togo, Légende FM, également Lavra, la voix de la résistance africaine. Merci de votre fidélité et merci encore une fois d'être toujours avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous. Je n'ai pas de coïncidence. Bon, bien, vous, il est bon, vous, amis, vous.
Obeyanya, c'est Tommy Lenya, au revoir, bonjour. Obey les jeunesses, à Beto Pano, la union.